Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens?
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine.
Sciences Po Ex et les étudiants du master métier de l'information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette première saison, l'équipe a décidé de revenir sur ce que certains médias ont qualifié d'affaire George Floyd, pour décrypter, épisode après épisode, ce que nous dit cet événement des usages contemporains du numérique et des débats qu'il suscite.
George Floyd, who was not armed, died on Monday after a police officer, Derek Chauvin, who is white, was shown in footage kneeling on his neck.
Au sommaire de ce journal, les émeutes américaines arrivent déjà en France, alors que les États-Unis sont à feu et à sang après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier pendant son interpellation.
Millions of people around the globe have joined the call for change by participating in Blackout Tuesday.
T'as vu ce qui se passe sur Insta? Mon fil d'actualité est rempli de carrés noirs. Tu sais ce que c'est, toi?
Oui, j'ai vu. J'ai mis du temps à comprendre, mais je crois que c'est en rapport avec l'affaire George Floyd. Tout le monde exprime son soutien à ses proches et proteste contre le racisme aux États-Unis. C'est fou, je pensais pas qu'autant de personnes se mobiliseraient comme ça.
Aujourd'hui, pour le premier épisode de Révolution numérique, nous nous attarderons sur un mouvement social qui a suivi le meurtre de George Floyd, le Blackout Tuesday, qui regroupe, selon nous, toutes les problématiques liées aux enjeux numériques de l'info. Alors, on se pose la question. Comment le développement des réseaux sociaux a permis un nouveau type de militantisme, le fameux militantisme 2.0? Mais c'est quoi au juste? Est-ce que c'est si différent de militer sur Internet? Je viens de recevoir un texto de Magali qui me dit que la notion de communication de masse individuelle nous aiderait à mieux répondre à nos interrogations. Mais du coup, c'est quoi exactement?
Ah bah tiens, justement, j'ai trouvé une vidéo qui en parle bien.
And over the last four decades, the advent of the internet and wireless communication networks have completely transformed the way we communicate in society at large. And the fundamental transformation has been the shift from what I call mass communication, what everybody calls mass communication, to what I call mass self-communication. This is from a system in which a message is sent from one to many with little interactivity, mass communication, to a system where messages are sent from many to many, and so that the senders are receivers and receivers are the senders, and both have access to a multimodal hypertext that constitutes the endless changing backbone of the communication processes.
Nous venons d'écouter un extrait d'une conférence de Manuel Castells, sociologue et spécialiste des transformations de la société à travers le développement des réseaux. Et réseau, nous y voilà, car il s'agit de comprendre en quoi les réseaux sociaux numériques ont changé notre rapport à l'information. Manuel Castells nous propose alors une réflexion sur ce qu'il appelle la communication de masse individuelle. La conception traditionnelle de la diffusion d'informations veut que ce soit les grands médias, détenteurs de savoir, qui nous délivrent une information que nous n'avions pas au préalable. C'est le modèle top-down, du haut vers le bas. L'émetteur est le média et le récepteur la population. C'est un modèle de communication de masse. Mais ce modèle, nous explique Castells, est concurrencé par l'apparition et le développement des fameux réseaux sociaux numériques. Les citoyens, désormais connectés, peuvent créer leurs propres réseaux sociaux communautaires, s'agrègent autour d'intérêts ou de motivations communes. Par exemple, on peut trouver sur Internet des forums rassemblant les amateurs de métal, comme ceux dont la passion est de décrypter l'actualité. On assiste alors à une interaction horizontale entre les individus et à une pluralisation des canaux d'information. Celle-ci ne passe plus par des médias institutionnalisés et reconfigure les relations de pouvoir. L'information et les canaux par lesquels elle arrive aux individus connectés sont donc en constante redéfinition. Nous pouvons changer de site d'information, donc de source que nous considérons comme fiable, à tout moment. Cela crée donc un nouvel effet de masse. Les informations alternatives à ceux des grands médias touchent également une très grande audience. Le numérique permet une démocratisation de l'information, elle y est souvent gratuite et basée sur de l'open source, chacun pouvant y collaborer en ajoutant des données. C'est le cas par exemple du très célèbre site Wikipédia qui nous a sauvé tant de dissertations. La communication de masse est donc individualisée. Chaque personne se crée son propre canal d'information. Les personnes ordinaires, comme vous et moi, ont accès à toutes ces données et peuvent donc se saisir beaucoup plus vite et personnellement d'une situation. Cette communication de masse individualisée permet alors, je cite, d'associer étroitement les processus d'exposition et de mise en récit de soi qui caractérisent les usages expressifs des réseaux sociaux numériques avec le développement d'un rapport plus individualisé à l'information et à l'engagement politique.
Alors, en quoi cette notion est éclairante sur les mouvements contestataires suivant le meurtre de George Floyd ? En quoi la communication de masse individuelle est pertinente quand on parle du Blackout Tuesday ? Tout d'abord, le Blackout Tuesday, concrètement, c'est quoi ? Un blackout, c'est l'équivalent d'un trou noir, ou d'une coupure de courant, en français. Mais comment faire transparaître ça sur les réseaux sociaux numériques, sans cesse en fonctionnement ? Le 2 juin 2020, des millions d'utilisateurs publient un carré noir avec le hashtag, histoire de noyer les autres publications et être particulièrement visibles. Le réseau social de prédilection pour ce mode d'action, c'est Instagram. Pourquoi ? Puisque au-delà de son audience massive et internationale, son fonctionnement est basé sur l'abondance d'images en continu. Ainsi, une vague de carrés noirs vient trancher avec les photos de vacances ou de brunch du dimanche. Et c'est là que ça devient percutant visuellement, puisque cela change de l'habitude. Le choix de le faire sur les réseaux sociaux numériques est notamment une volonté d'occuper l'espace médiatique numérique. Dans la logique de critique contre-hégémonique des médias du sociologue Dominique Cardon, il s'agit d'offrir une alternative et une réponse aux médias traditionnels. La mise à l'agenda de cette problématique vient donc se faire sur les réseaux sociaux numériques et de manière horizontale entre les utilisateurs. Pour le sociologue, les nouvelles formes de militantisme sur Internet font émerger des formes d'autogestion par le bas, agrégats d'intérêts personnels sur des sujets. D'autant plus que les réseaux sociaux numériques ont aujourd'hui la possibilité d'être un nouvel agrégateur de mobilisation, notamment avec l'utilisation des hashtags qui permettent de regrouper l'intégralité des publications en lien avec un sujet donné. Cet effet de masse horizontal rejoint donc la définition de la communication de masse individuelle dont nous avions parlé plus tôt. Toutes ces remarques nous amènent à nous questionner sur l'existence et la forme de ce nouveau militantisme 2.0. Bader Ben Mansour, doctorant en communication publique de l'Université Laval et membre étudiant du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, les médias sociaux constituent des outils qui permettent de mobiliser beaucoup de personnes en très peu de temps avec très peu de moyens. Il vient également souligner l'importance du rôle des réseaux sociaux numériques dans les mouvements sociaux d'ampleur, tels que les printemps arabes, qui ont initié le militantisme 2.0. Ce que souligne Ben Mansour, et ce qui rejoint les propos de Castells, c'est que les réseaux sociaux numériques permettent d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'améliorer leur image publique, de manière massive. Selon Castells, cette communication de masse individuelle a pour conséquence de créer des liens de coopération faibles avec des individus qui se laissent prendre dans des mouvements et des causes sur lesquelles ils n'arrivaient pas forcément à mettre de mots auparavant. Et en de rares occasions, ces coopérations faibles, au terme d'un long travail de consolidation et de renforcement des liens entre les participants, feront apparaître des normes et des valeurs que certains acteurs endosseront comme attributs identitaires en s'engageant explicitement dans la prise en charge de tâches collectives. Cela implique donc qu'il y aurait différents degrés de militantisme 2.0, allant du plus engagé au plus superficiel. Ce constat peut vite susciter de nombreuses critiques. Et le Blackout Tuesday, tout particulièrement les personnes et entreprises y prenant part, n'y ont pas échappé. Pour beaucoup, on les a placés directement dans la catégorie superficielle de l'engagement. Mais alors, est-ce qu'il existe vraiment une telle chose ? Comment est-elle nommée et observée ?
Le format du Blackout Tuesday n'était pas quelque chose de foncièrement innovant. Nous avions pu voir auparavant sur Instagram et Twitter une vague de carrés verts qui venait mettre la lumière sur le massacre des Rohingyas en Birmanie en 2016. Ainsi, les critiques étaient déjà prêtes et se sont manifestées quasi instantanément après le Blackout Tuesday. Le journal Libération, le jour même du mouvement, taxe celui-ci, et notamment les grands conglomérats qui y prennent part, de faire de l'engagement d'affichage. En anglais, une expression populaire pour évoquer ce phénomène, c'est le performative activism. Il s'agit d'un terme généralement péjoratif qui décrit un activisme effectué pour augmenter le capital social de la personne engagée, et non pas pour un intérêt et affect réel pour la cause. Un autre terme encore plus négatif, le slacktivism, agrégat de slacker, fainéant, et activisme, qui émerge au début des années 2000, coïncide donc avec l'essor d'Internet. Mais alors d'où vient cette critique ? Pourquoi se mobiliser sur les réseaux sociaux en partageant des publications, des hashtags ou en signant des pétitions en ligne n'est pas considéré comme une forme de militantisme par certains ? Pour essayer d'y voir plus clair, nous essayons de distinguer les différentes formes d'engagement que peuvent induire une pratique sur Internet. Cardon nous propose une définition de médiactivisme ou mobilisation informationnelle. Les mobilisations sociales progressistes qui orientent leurs actions collectives vers la critique des médias dominants et ou la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de production d'informations. Dans le cas du Blackout Tuesday, si une mobilisation sociale progressiste est bien présente, il ne s'agit pas d'une critique portée à l'égard d'une certaine production informationnelle. Celle-ci se limite à dénoncer, sans apporter un modèle concurrentiel médiatique. Alors il faut envisager une distinction entre militantisme, en termes concrets, et produisant des effets réels, comme par exemple aller physiquement dans une manifestation, de l'engagement que l'on qualifie de 2.0, car présent sur les réseaux sociaux numériques. Internet et le numérique constituent une plateforme offrant une possibilité de s'informer sur des sujets et même d'émettre des avis personnels. Reprenant la définition de Manuel Castel sur la communication de masse individuelle, cela permet la mise en place de canaux d'information horizontaux. Une forme d'engagement subjectif est alors possible, tout le monde peut exprimer son point de vue par rapport à une cause, dans le prisme d'un individualisme connecté. La notion de militantisme sous-tend alors une notion de groupe, de collectif, que l'on ne retrouve pas dans l'agglomération d'actions individuelles. Poster un carré noir sur Instagram, par exemple. Il s'agit de soutenir une cause sans forcément être militant. Il faut aussi ajouter, en reprenant la définition même de l'activisme performatif, la notion de marketing de soi. En effet, les personnes ayant posté un carré noir sur Instagram dans le cadre du Blackout Tuesday l'ont-elles fait par réelle conviction, ou pour faire partie d'une mouvance, se sentir appartenir à une communauté qui les transcende. Et donc, donner à soi-même et aux autres l'image de quelqu'un de militant, sans réellement s'impliquer. You know you ain't no better if you silent. You talking about the city on fire. Where your rage when my people die. We ain't slaves, let my people fly. Now's the time, watch my people rise. How many mothers have to cry? Ça, c'était un extrait de How Many Times par Trey Songz, artiste signé sous le label musical Atlantic Records. Sorti quelque temps après la mort de George Floyd. Pourquoi le choix de cet artiste et ce label ? Pourquoi Atlantic Records se démarque des autres labels ? Tout d'abord, c'est un label engagé, notamment dans sa volonté de visibiliser et mettre en valeur des artistes noirs, que ce soit actuellement ou à titre posthume. Trey Songz, Janelle Monáe, Lizzo y sont signés aujourd'hui, mais également le sont les légendes Aretha Franklin ou encore Ray Charles. Sur leur site internet, des pages dédiées directement aux artistes noirs et leur héritage musical, ou bien alors des playlists qui célèbrent la musique noire. La mort de George Floyd a donc touché directement les membres du personnel de ce label, notamment Brianna Hageman et Jamila Thomas, les directrices principales du marketing au sein d'Atlantic Records. Ce sont elles deux qui sont à l'origine du hashtag qui précéda le Blackout Tuesday, « The show must be paused », qui vient frapper par son opposition à l'éternel « The show must go on » américain. Pour les deux directrices, l'initiative était la suivante. Ce serait un jour pour se déconnecter du travail afin de se reconnecter à notre communauté et surtout une mesure d'urgence pour provoquer la responsabilité et le changement. Avec leur initiative, elles veulent souligner l'importance de la violence physique et symbolique auxquelles les personnes noires notamment sont confrontées. Le but de cette action n'était pas forcément de créer un effet de masse sur les réseaux sociaux numériques, comme l'est devenu plus tard le Blackout Tuesday, mais plutôt de favoriser l'individu et le reconnecter à sa communauté. Cette initiative a été lancée également avec la création d'un site internet pour y répertorier des ressources pour les militants, mais aussi pour donner un mot d'ordre, « Take a break », faites une pause. Dans un monde constamment hyper connecté, qui demande à tout le monde de réagir publiquement et à chaud à chaque nouvel événement, ici on va à rebours, en insistant qu'il est nécessaire de prendre son temps. Cette pause est aussi dans une logique de réflexivité pour que les individus réfléchissent à leur position dans leur combat. Ce silence et ces carrés noirs ont été auditivement et visuellement marquants, parce que cette démarche va aussi à rebours de l'afflux constant d'informations et d'images, d'autant plus dans des temps de manifestations et de violences policières, où les images de souffrance sont abondantes et souvent peu filtrées, et extrêmement relayées pour leur impact choc.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Petite recommandation pour Génération Y à la traîne ou Génération Z au taquet sur le sujet, un épisode du podcast de Binge Audio, Programme B, le militantisme façon TikTok. Ici, du coup, on laisse Instagram et on passe à TikTok. Thomas Rozek et son invité Romain Badoir, maître de conférence à l'Université Paris 2, viennent se questionner sur l'écho des combats comme Black Lives Matter dans des espaces aussi inattendus que TikTok. Comment les réseaux sociaux numériques sont passés de plateformes ludiques à lieux de revendication pour divers combats politiques? Ces questions, ils y répondent de manière simple et informée, en nous permettant d'y voir vraiment plus clair. Et toi Camille, tu nous conseilles quoi?
Ouais, merci Valentine. Donc, mon conseil, si vous voulez aller plus loin sur la notion de militantisme sur Internet et de l'engagement 2.0, c'est d'aller écouter l'excellente émission Le Temps du Débat, intitulée « Peut-on militer sur Internet ?», présentée par Camille Diao et trouvable sur franceculture.fr et en description de ce podcast. Il combine questions théoriques et réponses pratiques en questionnant la notion de militantisme performatif à travers des exemples concrets. Le témoignage de Bintou Mariam Traoré, journaliste ivoirienne à l'origine du hashtag « Vraie femme africaine » est particulièrement éclairant sur la manière dont un hashtag est un agglomérateur de convictions.
Alors, on en conclut quoi de cet épisode? Militer, s'engager ou juste soutenir une cause, tout est une question de degré et c'est encore plus criant aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques. Le Blackout Tuesday, avec son hashtag planétaire et son visuel marquant, nous a permis de toucher à de nouvelles notions liées à la communication de masse individuelle, le militantisme performatif et aux émotions dans le monde militant digital.
Dans cet épisode introductif, nous n'avons qu'effleuré les enjeux numériques liés à l'affaire George Floyd. Ces notions, et bien d'autres, seront explorées dans le prochain épisode de Révolution numérique. Alors restez connectés et n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche épisode suivant. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode, présenté par Camille
et Valentine. Bisous
et à bientôt.